Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous commencer la semaine avec vous et Culture Média. On vous l'avait dit vendredi, il y a eu un cas de Covid dans l'équipe dont par précaution on fait l'émission chacun chez soi. Donc vous vous étonnez pas si vous entendez une sirène de pompier ou un chat qui fait ses griffes. Couic, couic, couic. Au menu, médias et culture au sens large, ça n'a pas changé. Tous les médias et toutes les formes de culture. Aujourd'hui, une chanteuse de jazz et une série britannique très étrange. Vous retrouverez évidemment Bertrand Chamerois pour son écran de veille, Eva Rock pour le zapping du lendemain et le journal des médias de Charles Decaux. Notre infomédia, d'après un récent rapport, il faudrait 99 ans avant d'arriver à une égalité complète entre hommes et femmes et 257 ans avant d'arriver à cette même égalité dans le monde du travail. Le mensuel Marie-Claire était pressé et il a décidé de prendre les devants et de faire des propositions concrètes à l'UNESCO et à la ministre. Sa directrice de la rédaction, Katel Pouliken, nous dira lesquelles. Nos invités ensuite, Martin Veil pour un grand reportage « Que fait la police ce soir sur TMC ?» avec des séquences édifiantes dans des voitures de la BAC, mais également dans des caves des dealers ou les quartiers chauds de Grenoble. Enfin, Tania de Montaigne, l'écrivaine pour la reprise de sa pièce noire au prestigieux Théâtre du Rond-Point, pièce qui n'a jamais été autant d'actualité. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Charles Decaux.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
C'est l'heure de votre journal des médias, le sommaire du jour.
LCI recrute une ancienne ministre, femme actuelle se refait une beauté, Michel Drucker hospitalisé et quel retour pour Laurent Ruquier.
Mais on commence comme chaque lundi par les audiences du week-end, justement au parler de Ruquier. Qu'est-ce que les Français ont regardé d'abord samedi soir à la télévision ?
Les semaines se suivent et se ressemblent. Comme chaque samedi, France 3 s'est largement imposée sur l'ensemble du public avec sa fiction policière et TF1 s'est largement imposée sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans avec The Voice Kids. Sur France 3 d'abord, Avis de tempête avec Lannick Gautry a fait encore mieux que la fiction de la semaine précédente avec 5,3 millions de téléspectateurs pour une part d'audience de 25,5% sur l'ensemble du public. C'est un excellent score. TF1 est loin derrière en deuxième place avec la suite de The Voice Kids, à nouveau en légère baisse sur une semaine, 2 millions de personnes au compteur pour 17,6% de part d'audience, mais 26% sur les femmes de moins de 50 ans. C'est France 2 qui a fermé la marche avec la nouvelle version de Surprise Surprise, on en a parlé vendredi. Ils étaient 2,3 millions et 12% du public à découvrir ce premier numéro, des scores supérieurs à ceux de Fort Boyard ces dernières semaines dans la case.
Et je note que vous gardez le suspense pour l'audience de la nouvelle émission de Laurent Ruquier le samedi soir en direct. Et dimanche Charles, les audiences hier donc.
C'est TF1 qui a pris la pole position avec le film américain en rediffusion Le Nouveau Stagiaire. La comédie avec Robert De Niro et Anne Hathaway a été suivie par 4,8 millions de téléspectateurs, soit 23,6% du public et un joli 29% sur les femmes de moins de 50 ans. France 3 est deuxième avec la suite des enquêtes de Murdoch. Les deux épisodes de la série canadienne ont fédéré 2,6 millions de personnes pour une part d'audience de 11,8% stable sur une semaine. France 2 et M6 sont dans un mouchoir de poche à 2,2 millions de téléspectateurs pour la troisième et la quatrième place. Sur la 2, le film Diversion avec Will Smith pointe à 10,4% de part d'audience. Sur la 6, Zone interdite consacrée à la prostitution des ados atteint 10,5% de part d'audience.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec l'arrivée sur LCI d'une ancienne candidate à la présidentielle.
Elle l'a annoncé ce week-end au JDD, Ségolène Royal a accepté de devenir débatteuse sur la chaîne info du groupe TF1. La candidate à la présidentielle 2007 interviendra de manière régulière sur LCI dans l'émission En toute franchise, diffusée tous les dimanches à 18h. C'est la journaliste Amélie Carouer qui anime cette émission. Elle interroge dans un premier temps un invité politique, puis elle mène un débat entre deux personnalités. Ségolène Royal a fait ses premiers pas dans l'émission dès hier. Elle a rejoint une équipe de commentateurs qui inclut notamment Luc Ferry ou Daniel Cohn-Bendit. L'ancienne ambassadrice d'épaule a expliqué au JDD ce qu'il avait poussé à accepter la proposition. Je cite « Je trouve intéressant, au vu des questions qui traversent notre société, de participer à un moment de débat intellectuel de fond. »
Vous vous rappeliez son poste d'ambassadrice d'épaule, elle n'avait justement été démise à la suite de ses prises de position, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça, c'était en janvier dernier. Il faut dire que Ségolène Royal s'était montrée très critique à l'encontre du gouvernement. Elle était sortie du devoir de réserve qu'imposait sa fonction. À l'époque, elle avait commenté sur Twitter, je cite « Je prends acte de mon limogeage car je choisis ma liberté de parole ». Eh bien, elle va pouvoir exercer cette liberté de parole sur LCI.
Une question, les médias ont-ils mal géré la couverture de la pandémie de Covid ?
C'est en tout cas ce que pense une majorité des Français si l'on en croit une étude réalisée par Via Voice pour les Assises du journalisme de Tours et pour plusieurs titres de presse dont le JDD. Elle a été publiée ce week-end et elle n'est pas tendre avec les médias. 60% des Français estiment que les médias ont trop parlé de la pandémie ces derniers mois. 10% trouvent à l'inverse qu'ils n'en ont pas assez parlé. Entre les deux, seuls 25% des personnes interrogées ont trouvé la couverture de la situation sanitaire équilibrée. Par ailleurs, 43% des Français estiment que les médias ont alimenté la peur vis-à-vis de la pandémie. 32% estiment qu'ils l'ont exploité pour faire de l'audience. En ce qui concerne la teneur des informations relayées par les médias, les Français trouvent à 50% qu'elle était anxiogène, à 45% excessive et à 28% carrément catastrophiste.
C'est l'un de nos feuilletons de l'été, Charles. TikTok a été sauvé in extremis. Ça s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé cette nuit.
Oui, l'application de vidéos courtes très populaire auprès des jeunes aurait dû être interdite de téléchargement hier suite à un décret présidentiel. Mais un juge de Washington a suspendu son application. Il a souligné lors de l'audience l'aspect, je cite, irrationnel du décret et estimé que l'interdiction serait sans précédent. TikTok n'est pas pour autant sauvé, donc notre feuilleton va pouvoir continuer. C'est le décret en tant que tel qui a été suspendu, pas l'interdiction de télécharger l'application aux États-Unis. Elle reste pour l'heure fixée au 12 novembre prochain. D'ici là, les propriétaires chinois de TikTok pourront avancer avec le géant du logiciel Oracle et le géant de la distribution Walmart. Les trois parties travaillent à la création d'une entité américaine pour gérer les activités de TikTok aux États-Unis.
On revient en France. Ce lundi, Femme Actuelle fait sa rentrée avec une nouvelle formule.
La fin de l'été rime avec nouveauté pour l'hebdomadaire féminin. Femme Actuelle, c'est la première marque média féminine en France. Si on ajoute la presse et le numérique, c'est 25 millions de lecteurs et d'internautes par mois, lecteurs et lectrices bien sûr. Louise Bernard est allée demander à son rédacteur en chef, Julien Lamurie, pourquoi il était nécessaire de donner un coup de jeune au magazine.
On fait une nouvelle formule tous les ans, on est un hebdomadaire, donc du coup c'est important de rafraîchir notre offre auprès de notre lectorat, surtout qu'on a un lectorat qui est parfois historique, hein, qui nous achète depuis des années, et globalement on pense que rafraîchir les formules, créer de nouvelles rubriques, s'intéresser aux évolutions de consommation, d'attente des lectrices, c'est très important pour rester le magazine qu'elles vont acheter toutes les semaines et pour qu'elles continuent de trouver de l'intérêt et de la nouveauté. On arrive à aller chercher de nouvelles lectrices, des lectrices plus jeunes aussi, parfois. Après, si on se dit les choses, hein, la presse est structurellement à la baisse. Il y a des habitudes qui se perdent un peu chez les lectrices. On achète moins de magazines papier, on est plus sur le digital.
Julien Lamurie le dit clairement, le digital prend évidemment de plus en plus d'importance depuis de nombreuses années. Cette nouvelle formule de Femme Actuelle, c'est donc une évolution dans la forme, avec une nouvelle maquette pour le magazine papier, mais aussi dans le fond, pour continuer à être proche des femmes 35 ans après le lancement du magazine.
On a vraiment revu toute la maquette, on voulait quelque chose d'un peu plus féminin, un petit peu plus haut de gamme aussi, on est un peu monté en gamme en termes de maquette. On est déjà un magazine pratique, on a renforcé une consommation responsable, c'est-à-dire les bons plans pour améliorer sa consommation au quotidien. C'est complètement dans l'air du temps et dans les attentes des Françaises. Voilà, d'avoir une vision de la consommation qui est plus évolutive, travailler les produits de deuxième main, consommer de façon plus locale. Voilà, on accompagne nos lectrices sur tout ça, notamment aussi sur les questions de la beauté, les produits qu'on peut se mettre sur le visage, savoir d'où ils viennent, comment ils sont faits, quels sont les produits qu'il peut y avoir dedans, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Enfin, voilà un pilier important de cette nouvelle formule.
Julien Lamurie au micro de Louise Bernard. Jean-Pierre Elkabbach était hier de retour sur CNews en direct. Aucun rapport avec ce qui précède. La rentrée de Michel Drucker, elle, a été repoussée.
Oui, on l'a appris hier dans Le Parisien. L'animateur a été opéré du cœur ce samedi dans un hôpital de la capitale. Le quotidien révèle que Michel Drucker a rencontré des problèmes d'essoufflement cet été pendant ses vacances. Il a subi des tests. Ce sont ces tests qui ont révélé la nécessité de l'opération. Aucun rapport avec le Covid-19, puisqu'il s'agit de déboucher ses artères coronaires chargées d'irriguer son cœur afin d'éviter tout risque de crise cardiaque.
Michel Drucker qui écoute souvent Culture Média, on sait comment il va ?
Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions, a indiqué aux Parisiens que l'intervention s'était bien déroulée. Je cite, il est combatif et le moral est bon. Ça va être un choc pour son public, mais il tient à rassurer tout le monde. Mais évidemment, il va lui falloir du temps pour se remettre sur pied, d'où la nécessité de décaler sa rentrée. Le premier numéro de Vivement Dimanche devait être enregistré ce vendredi pour une diffusion le 18 octobre. Cet enregistrement a évidemment été annulé.
Alors, quelle date annoncée ? Est-ce qu'on sait quand il reviendra ?
Pour l'instant, a priori, personne ne le sait. Pendant son absence, France 2 a en tout cas annoncé qu'elle allait proposer des rediffusions de Vivement Dimanche. La chaîne dispose de plus de 700 émissions en stock. Il y a donc de quoi faire. Et Michel Drucker pourra prendre aussi longtemps que nécessaire pour sa convalescence.
Et enfin, la résolution de ce teasing, de ce teaser, on reste sur France 2. On parle du retour de Laurent Ruquier. C'était samedi soir à 23h30.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver toutes et tous pour une nouvelle aventure. Et cette aventure s'appelle... On est en direct.
Voilà, fini le générique In the Shadows d'Erasmus. Samedi, l'animateur était aux commandes des premiers numéros de son nouveau magazine, qui s'appelle donc On est en direct. Il a la lourde tâche de succéder à On n'est pas couché. Après 15 saisons, le talk show produit par Catherine Barma avait perdu de sa superbe et vu ses audiences s'éroder très nettement. Pour la première de On est en direct, Laurent Ruquier a interviewé en tête-à-tête le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, puis Jean-Marc Généreux. Il a parlé théâtre avec Bernard Campan et Isabelle Carré, ou encore reçu Catherine Ringer pour un hommage à Juliette Gréco. L'animateur avait aussi organisé un débat sur la liberté d'expression avec des dessinateurs au lendemain de l'attentat près des anciens locaux de Charlie Hebdo.
Et au niveau audience, qu'est-ce que ça a donné?
Voilà, donc la réponse au teasing, ça a pas mal fonctionné. Au compteur, un peu plus de 800 000 téléspectateurs pour 13,3% de part d'audience. C'est un score encourageant. Pour mettre un peu tout ça en perspective, on est loin de la grande époque d'On n'est pas couché, où l'émission dépassait les 20% de part d'audience. Mais à l'exception de la toute dernière émission, le final d'On n'est pas couché, où il y avait eu un vrai effet de curiosité, On est en direct fait mieux que la fin de saison assez triste de ONPC. Pour rappel, fin juin, l'émission avait chuté à 550 000 téléspectateurs avec moins de 8% de part d'audience.
Merci beaucoup Charles Decan. À demain pour un nouveau journal des médias. Culture Média continue évidemment dans un instant notre info média du jour avec le magazine Marie-Claire qui lance un groupe de réflexion pour l'égalité entre les femmes et les hommes. On sera avec la directrice de sa rédaction, Katel Pouliken.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
D'après le dernier rapport du Forum économique mondial, il faudra 99 ans avant d'arriver à une égalité complète entre les hommes et les femmes et 257 ans avant d'arriver à une égalité dans le monde du travail. Le magazine, le mensuel Marie-Claire, en partenariat avec Connecting Leaders Club, a décidé d'accélérer le mouvement en organisant un think tank, en français courant, un groupe de réflexion qui convoquera spécialistes et décideurs et décideuses de tous bords pour faire des propositions. En l'occurrence, le think tank Marie-Claire, Agir pour l'égalité, c'est son nom, dont les débats et conférences seront retransmis chaque jour de cette semaine sur le site du magazine. Ça a donné lieu à 100 propositions qui ont été remises à Elisabeth Moreno, ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. La question évidemment est de savoir sur quelles avancées concrètes va déboucher cette force de proposition. Bonjour Katel Pouliken.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous êtes la directrice de la rédaction de Marie-Claire, je le cite, magazine créé en 1937, aujourd'hui vendu à 343 000 exemplaires chaque mois. C'est pas rien, c'est une sacrée force de frappe. Vous-même, vous avez animé quelques-unes des conférences de ce think tank Agir pour l'égalité qui avait été créé en 2018. À cause de la crise sanitaire, chacun le comprendra, les sessions n'ont pu se dérouler en public comme l'an dernier. Elles ont été enregistrées dans les conditions du direct, mais à huis clos, c'était à l'UNESCO le 16 septembre. C'est quoi les thématiques de cette année ?
Alors effectivement, on a travaillé sur de nombreux sujets sur lesquels on a enquêté tout au long de l'année qui vient de s'écouler. Et on a animé plusieurs tables rondes, une table ronde sur la place des femmes dans la santé. À chaque fois, en fait, le but, c'est de faire avancer le sujet de l'égalité, donc agir pour l'égalité dans la santé, agir contre les violences faites aux femmes. On s'est intéressé aussi à la question de l'autonomie financière des femmes. On souhaite aussi mettre l'accent sur la place des femmes dans la tech. Donc, on a aussi une table ronde pour essayer de guider les femmes, de les aider à prendre davantage encore leur place, que j'appelle la tech.
La tech, c'est la technologie, c'est la haute technologie.
Oui, exactement, la haute technologie, tous les nouveaux métiers qui émerge avec l'importance, l'explosion du numérique. On s'intéresse aussi à la place des femmes dans la ville et dans les transports, en se demandant comment faire pour les rendre plus accueillants pour les femmes. Et effectivement, c'est la table ronde que j'ai moi-même animée. C'est une table ronde qui s'intéressait aux stéréotypes dont souffrent encore souvent, trop souvent les femmes dans les médias. Et dans la culture en général, que ce soit la fiction, les documentaires, le fait que, par exemple, on voit encore trop peu de femmes expertes sur les plateaux. Et donc, c'était vraiment un débat qui non seulement faisait le bilan de la situation, mais essayait aussi de trouver des perspectives pour faire mieux plus tard. Ces différentes tables rondes, comme vous le disiez, ont été enregistrées dans les conditions du direct. Elles vont être diffusées à partir d'aujourd'hui sur marieclaire.fr avec un programme qui va se dérouler tout au long de la semaine jusqu'à vendredi prochain, le 2 octobre.
Ici, on est une émission média, je ne peux que vous donner raison. On disait qu'il y avait peu de femmes dans les médias en tant qu'expertes parce que parfois, elles rechignent à se déplacer. Parfois, malheureusement, ce sont elles qui s'occupent des enfants. Et on a vu que la situation ne s'est pas améliorée avec le Covid, où là, on pouvait faire des interventions à distance. Au contraire, on pourra en reparler. En mai dernier, vous aviez déjà organisé une conférence sur le site de Marie-Claire pour réinventer les villes, les transports, l'espace public, pour répondre aux attentes des femmes. On va entendre Marie-Pierre Badre. Elle est conseillère régionale d'Île-de-France et elle exposait des inégalités qui, pour certains, peuvent apparaître comme des détails, mais qui sont pourtant édifiants. On l'écoute.
Par exemple, pour les terrains de football à la campagne, dans des communes comme les miennes, je suppose que c'est pareil dans les villes, le football, c'est destiné aux garçons. Donc, moyennant quoi, on fait un terrain de foot et on fait des vestiaires pour les garçons. Vous n'avez qu'à regarder, dans les villes où il y a des terrains de foot, il n'y a pas de vestiaire pour les filles. C'est pas grand-chose de faire un vestiaire pour les filles. Ça, ça paraît simple, mais ça n'est jamais fait.
Et aussi, on l'a remarqué, je ne sais pas si vous habitez à Paris, il y a des terrains de basket dans Paris, il n'y a tout le temps que des mecs qui jouent au basket sur les terrains de basket. Alors que le basket est un sport mixte.
Évidemment, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Je ne peux que donner raison à cette femme qui s'exprimait à l'instant. Ça fait partie effectivement des sujets qu'on a soulevés lors de notre think tank, qui encore une fois est un laboratoire. Un laboratoire qui enquête, qui écoute, qui ensuite est force de proposition aussi et qui revendique finalement d'être lanceur d'alerte aussi. Pour revenir à votre question, en effet, la place des femmes dans la ville, dans la rue, nous préoccupe énormément. Le sentiment d'insécurité que ressentent énormément de femmes est absolument terrible. Et l'une des pistes qu'on a explorées aussi, c'est qu'on défend dans ce livre blanc que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est le fait de développer ce qu'on appelle des marches exploratoires, le fait que des marcheuses volontaires identifient des éléments d'aménagement du territoire qui sont, selon elles, à l'origine de leur sentiment d'insécurité. Et qu'elle propose collectivement des solutions. Le but étant évidemment d'associer les femmes en les rendant actrices de leur environnement pour investir ou même parfois réinvestir davantage l'espace public.
On a encore plein de questions à vous poser. On va parler des transports, on va parler de la ville, on va parler de la fonction publique. Vous restez avec nous, Katel Pouliken, directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. À tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Katel Pouliken, directrice de la rédaction de Marie-Claire, Marie-Claire qui organise les conférences de son think tank Agir pour l'égalité, ça a été enregistré et c'est désormais disponible sur leur site. À propos de l'environnement urbain, on parlait du concret. Sur quoi vont déboucher ces réflexions? Vous avez remis plusieurs propositions à Elisabeth Morano, la nouvelle ministre qui remplace, si j'ose dire, Marlène Schiappa, notamment pour inciter les conseils municipaux à donner des noms de femmes aux rues, aux nouveaux quartiers, des futures gares, des équipements publics. À quel nom pensez-vous et qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est seulement symbolique ou est-ce que ça peut aller plus loin que ça?
Évidemment, c'est tout à fait symbolique d'abord, mais c'est aussi un symbole qui peut vraiment inspirer de nombreuses jeunes femmes, des petites filles aussi. Donc, on est extrêmement attaché à ce symbole. Je reviens juste à votre première question. L'idée, en fait, c'est de remettre effectivement nos 100 propositions à la fois au pouvoir public, dont Elisabeth Moreno, mais aussi d'autres ministres qui peuvent être intéressés par les sujets que nous avons couverts, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, etc., et également à des entreprises privées. Nous avons de nombreux partenaires au think tank. Je peux en citer quelques-uns, aussi bien la RATP, donc entreprise publique, que Salesforce ou L'Oréal, par exemple. On leur remet nos propositions. Ils sont évidemment garants d'une avancée de cette égalité femmes-hommes. Et ensuite, on va tirer les comptes avec eux et avec les pouvoirs publics, on l'espère, dans les mois qui viennent.
La RATP, évidemment, vous parlez des agressions dans les transports, vous parliez de marches exploratoires, vous vouliez vous attaquer, si j'ose dire, au trottoir. Est-ce qu'on n'est pas en train de confondre la fièvre et le thermomètre? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt s'attaquer aux types qui sont sur les dits trottoirs et qui agressent vraiment les femmes?
Bien sûr, vous avez tout à fait raison, mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Évidemment que l'éducation des garçons, l'éducation est essentielle. Et on a aussi d'ailleurs pas mal de propositions à faire qui relèvent pour le coup du ministère de l'Éducation. Je partage, évidemment.
Le ministère des Droits des Femmes est apparu en 1974, c'était sous l'égide de Valéry Giscard d'Estaing. Il avait confié le poste à Françoise Giroud. Il y avait un vent de féminisme qui soufflait alors sur la France et qui ne manquait pas d'en exaspérer certains. Vous allez voir que parfois c'est tenace. Et Bertrand Blier, le cinéaste qui réalisait en 1976 le film Calmos avec Jean-Pierre Marielle et Jean Rochefort. Écoutez, document.
Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît.
Qu'est-ce que vous allez foutre rue Gustave Flaubert?
Ça ne regarde pas monsieur.
Bah alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande.
Oh, il est très aimable.
En quel honneur?
Ça c'est incroyable, je lui demande un renseignement, il m'insulte.
De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs.
Y a pas de renseignement, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien.
Vous voyez pas que c'est un homme fatigué, à deux doigts du break? Vous cherchez l'incident ou quoi?
Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Oh. Toutes? Vous êtes du quartier?
Non, de Montrouge.
Et elles sont comment à Montrouge? Oh. Bah arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là?
C'est une époque révolue selon vous ou ça reste d'actualité?
Bien sûr que ça reste d'actualité, évidemment. C'est bien pour ça que malheureusement notre think tank Agir pour l'égalité a autant de propositions à faire, parce que le chemin est encore extrêmement long.
Ouais. C'est pas gagné, je suis pas là pour vous couper le moral, mais la semaine dernière, Elisabeth Morano dressait un bilan de la situation à l'Assemblée nationale. Elle avouait que même au sein de la fonction publique, la parité était loin d'être appliquée. On l'écoute.
En effet, un constat s'impose. Alors que 62% des agents de la fonction publique sont des femmes, elles n'occupent que 41% des emplois de catégorie A+. Toute fonction publique confondue. Et derrière les grades et les échelons se cachent là aussi des inégalités salariales. La loi Sauvadet puis la loi Vallaud-Belkacem y ont apporté des corrections. Et la loi de transformation de la fonction publique, portée par le gouvernement, est également une étape supplémentaire vers plus d'égalité dans la fonction publique. Mais là aussi, les progrès restent encore trop timides.
Elisabeth Morano, ministre chargée, je le rappelle, de l'égalité entre les femmes et les hommes. Qu'en est-il de la parité au sein de Marie-Claire, qu'a-t-elle Pouliquen ?
Elle n'est pas respectée.
On est à une
écrasante majorité des femmes. C'est une rédaction très féminine, il y a quelques garçons, mais pas assez.
C'est un choix politique ?
Non, vraiment pas. Je vais vous donner une anecdote. Je suis la seule de ma promo de l'école de journalisme de Lille à travailler en presse féminine. C'était un secteur qui était très méprisé. Et ouais. J'ai beaucoup de collègues dans la presse, radio, télé, médias, tout confondu. Et on est très, très peu. Donc, j'incite vraiment les étudiants, les étudiantes à venir travailler à Marie-Claire et dans d'autres magazines dits féminins. On vaut beaucoup mieux que la caricature que ça. Certains le font parfois.
Et ce matin, on entendait Femmes Actuelles, votre confrère Hebdo qui lançait une nouvelle formule, et le rédacteur-chef était un garçon, on l'a entendu, dans le journal de Charles Decamp. Marie-Claire, vous avez lancé une nouvelle formule fin juillet qui actait votre arrivée à la direction. Et vous êtes arrivée avec une équipe rapprochée, 3 femmes, pas un seul garçon.
Absolument.
Le slogan...
c'est vrai, mais ce sont des femmes de grand talent, donc je ne voulais pas m'en priver.
Le slogan de Marie-Claire, c'est désormais la voix des femmes, le sens de l'époque. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, nous aussi, nous avons effectivement lancé une nouvelle formule. J'entendais mon confrère tout à l'heure, nouvelle maquette, nous aussi. J'ai voulu que Marie-Claire devienne un peu plus solaire jusque dans ses couvertures. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus peur d'avoir une femme qui sourit en une de Marie-Claire.
Attendez, je vous interromps. Ouais. C'était interdit autrefois ?
Je sais pas, mais enfin,
j'avais
en tout cas,
jamais fait attention
temps,
à ça.
Non, interdit, non, certainement pas. Mais enfin, ces derniers temps, ça arrivait moins souvent, je dirais. Ouais. Pour rebondir en effet sur la voix des femmes, le sens de l'époque, l'idée, c'est aussi de créer un journal qui soit un peu davantage ancré dans l'air du temps, dans son époque, qui la regarde, qui la décrypte, qui lui donne du sens. Et puis, la voix des femmes, c'est parce que on a très envie d'un journal qui parle de façon authentique à nos lectrices. Je le disais à l'instant, la presse féminine est souvent brocardée et l'une des critiques qui nous est formulée souvent, c'est le fait que finalement on prendrait les femmes pour des idiotes. Enfin, ça peut arriver parfois qu'on ait entendu ce procès et qui n'est évidemment pas justifié selon moi. Mais en tous les cas, l'idée de s'adresser vraiment aux femmes comme au même niveau qu'elles, en fait, c'est-à-dire que les lectrices sont des femmes à qui on ne s'adresse jamais avec un ton surplombant. enfants. On essaie de s'adresser à elles vraiment comme à des amis, comme à des femmes qu'on a envie d'informer, évidemment, mais avec un lien qu'on espère le plus authentique possible et avec des problématiques qui résonnent en elles. On a envie d'assumer vraiment un effet miroir quand on crée Marie-Claire chaque mois.
Ouais. D'un mot, ce sera quoi la couverture du prochain Marie-Claire ?
Virginie Efira, très belle.
Merci beaucoup, Katel Pouliken, directrice de la rédaction de Marie-Claire et son équipe de filles. Les candidatures de garçons sont appréciées.
Il y a quand même
quelques garçons. Je relève votre appel. Je rappelle que les conférences du think tank Agir pour l'égalité sont diffusées à partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus sur le site de Marie-Claire. Culture Média continue, on va recevoir Martin Veil, le reporter qui a fait une enquête sur TMC qui sera diffusée ce soir, enquête édifiante sur la police. A tout de suite dans Culture Média.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Martin Veil.
Bonjour Philippe.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes journaliste, reporter. Le grand public, vous avez découvert dans les émissions de Yann Barthès, Le Petit Journal, puis Quotidien sur TMC. Et depuis deux saisons, vous avez votre émission à vous, des grands reportages sur TMC après les gourous, la cocaïne, les complotistes, le Brésil de Bolsonaro, les ravages du tourisme de masse. Vous attaquez demain au malaise chez les policiers avec cette question cash : que fait la police ? Une fois n'est pas coutume, surtout pour quelqu'un comme vous, qui a plutôt l'habitude de prendre le point de vue, sinon des victimes, du moins des gens d'en bas, si j'ose dire. Vous avez décidé de voir les choses du côté des policiers. Ce sont des victimes ?
Je dirais pas que ce sont des victimes. On a décidé, oui, de voir le point de vue du côté des policiers parce que c'est des gens dont on parle beaucoup et qu'on entend peu. Mais le reportage est construit en donnant la parole aux policiers, mais en donnant aussi la parole à ceux qui sont victimes de violences policières.
Exactement. Vous avez pris le problème à la racine. Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. À l'école de police, en l'occurrence celle de Reims. Surprise, là, ça fait lien avec ce qu'on disait avec Katel Pouliken. Les femmes représentent 30% des élèves. Vous en avez rencontré deux. Vous leur avez demandé leur motivation. Et surtout, si elles craignaient de se retrouver sur le terrain, dans les quartiers difficiles. Parce qu'on parle beaucoup, évidemment, des bavures en ce moment. Et j'étais très étonné par la réponse et surtout par les motivations de ces jeunes femmes.
Lauriane et Laetitia ont déjà réalisé des stages en brigade, une expérience qui les a confortées dans leur choix.
Et vous seriez prête, là, en sortant d'école, à aller travailler dans certains quartiers difficiles ?
Oui, je pense, oui. Bah, après, moi, je l'ai déjà fait. Et puis, elle, c'est ce que je recherche. Parce que je me dis, c'est sûr, déjà, on s'ennuie pas, c'est sûr. Après, ça met un peu d'adrénaline parce que forcément, on a la confrontation, entre guillemets, avec ces jeunes. Moi, c'est ce que je recherche, entre guillemets, avoir un peu d'adrénaline, des choses comme ça, quoi.
Toute la difficulté sur le terrain, c'est justement de faire la part des choses entre l'adrénaline et le discernement. En gros, ce que sous-tend ce premier extrait, c'est qu'il n'est pas étonnant de se retrouver face à des bavures si les policiers recherchent volontairement l'adrénaline, Martin Veil.
Alors oui, on peut voir les choses comme ça. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est ce que vous dites, c'est la formation. Ce sont des jeunes qui veulent être policiers, qui ont les motivations qui sont les leurs. Tout le rôle des instructeurs, c'est justement de juguler peut-être cette envie d'adrénaline pour leur apprendre quels sont les codes qu'il va falloir exercer plus tard. Et la vraie question que ça pose surtout, c'est entre la formation théorique, qui est courte, et la réalité du terrain, à quel point est-ce que les choses tiennent, à quel point est-ce que ce qu'on leur apprend dans le cadre d'une salle scolaire va se retrouver sur le terrain ou non.
Justement, vous avez vu ce qu'on leur apprenait, la technique d'étranglement qui est baptisée dans les manuels techniques de maintien de tête. À l'école de police, vous demandez à un instructeur de vous la montrer, de tester la technique sur vous. Il refuse parce qu'elle n'est plus enseignée. Mais on n'arrive pas trop à comprendre parce qu'en même temps, les policiers ne comprennent pas pourquoi elle a été retirée de la procédure par Christophe Castaner. On n'a pas très bien compris si elle était toujours retirée, si elle avait été autorisée à nouveau. Où est-ce qu'on en est de ce point de vue-là ?
Alors en fait, pour l'instant, sur le terrain, elle peut encore être appliquée, mais elle n'est plus enseignée à l'école. Et ce qui est intéressant autour de cette technique, c'est qu'un avis devait être rendu le 1er septembre pour savoir si on l'a remplacée et si oui, par quoi. Et pour l'instant, il n'y a toujours rien.
Vous dites qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus de violences policières. Ce « on », c'est un « on » extrêmement collectif. Est-ce que c'est corroboré par les chiffres ? Est-ce que c'est un effet d'optique ou à cause de l'irruption des caméras personnelles ? Parce que maintenant, chacun a une caméra dans son téléphone.
Alors, c'est la grande bataille des chiffres. Il y a plusieurs enquêtes, les enquêtes de victimation et d'autres qui se basent sur les chiffres de la police. Ce qu'on peut dire, c'est que globalement, statistiquement, les violences, en fait, sont plutôt stables. C'est le sentiment d'insécurité qui progresse. Et effectivement, aujourd'hui, avec les caméras, avec le fait que tout le monde puisse avoir un iPhone et filmer, on a peut-être l'impression qu'on voit plus de ces images-là. Mais c'est deux choses différentes, si vous voulez, le nombre de violences policières et le sentiment de violence dans la société.
C'est justement parce que ce sont deux choses différentes que la question est très intéressante. Comment vous expliquez ce décalage ? En gros, le sentiment d'insécurité augmente et le nombre de cas de violents est à peu près stable.
Alors, je ne suis pas sociologue, mais eux l'expliquent par plusieurs choses. Déjà, le poids de l'image, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une société où tout va très vite. Donc, ça peut être aussi le poids des chaînes info. C'est aussi les politiques. L'insécurité, c'est un enjeu politique et c'est un outil, si vous voulez, électoral qui est utilisé par certains. Faire peur, ça marche.
Vous êtes aussi allé filmer sur le terrain. En l'occurrence, c'était à Roubaix, l'une des villes les plus pauvres de France. Vous avez accompagné une brigade en patrouille de nuit. Ensuite, retour de la tournée, vous vous retrouvez avec les policiers pour un débrief. Et là, vous leur parlez des jeunes qui arrivent ou non dans le métier.
Quand vous voyez un jeune collègue, 20 ans, qui débarque en ce moment, qu'est-ce que vous dites ?
Bah, je trouve qu'il est courageux.
Ouais, voilà.
Parce que moi, j'incite les membres de ma famille, les petits jeunes qui veulent rentrer dans la police, à ne pas y rentrer.
Ah ouais ?
L'insécurité totale. On est devenus des cibles à l'heure actuelle.
Et là, c'est le monde à l'envers, c'est la police qui redoute l'insécurité.
Exactement, mais ce qui est assez dingue, effectivement, c'est que c'est un policier en service qui dit que lui conseille aux jeunes autour de lui de ne pas rejoindre les forces de l'ordre. Ce qui ressort de ce tournage à Roubaix, effectivement, c'est une forme de lassitude et un peu le côté « à quoi bon faire tout ça ?». Je pense aussi que pour beaucoup de gens qui portent l'uniforme, les critiques qui sont portées aujourd'hui contre la police font que le métier est plus dur. Il y en a beaucoup qui nous disent ça, ils nous disent « mais on comprend pas, en 2015, pendant les attentats, on était applaudis par la population, aujourd'hui, 5 ans après, on nous crache dessus ».
C'est d'ailleurs l'image qui ouvre ce reportage. Vous êtes également allé tourner dans des cités, à Corbeil-Essonnes, à Grenoble et même avec des dealers. Vous restez avec nous, Martin Veil. On en parle juste après ça dans Culture Média. Tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Que fait la police ? C'est la question que pose le reporter journaliste Martin Veil. Réponse demain sur TMC à 21h15 avec un long reportage en immersion. Vous êtes allé du côté des policiers. Vous êtes également allé tourner dans une cité à Corbeil-Essonnes. On voit l'éternel face à face des jeunes et des policiers. Comment vous avez réussi à être accepté avec votre caméra là-bas ? Vous êtes allé comme ça, le nez en l'air si j'ose dire, ou avec un fixeur ? Comment ça se passe quand on veut aller tourner là-bas ?
Non, pas du tout. En fait, on a pris contact avec un jeune qui, en l'occurrence, est rappeur, et puis on lui a expliqué quel était notre projet et qu'on avait vraiment à cœur d'entendre, entre guillemets, les deux côtés. Et donc, ça nous intéressait d'aller dans son quartier pour comprendre, en fait, le rapport que les jeunes ont avec la police. Corbeil, c'est un lieu de violence, d'ailleurs de violence aussi intercartier, pas qu'avec la police. Et il se trouve qu'au moment où on était là-bas, effectivement, il y a un des jeunes qui se fait interpeller. Et du coup, la séquence montre un petit peu la défiance qu'il y a des deux côtés. Il y a notamment un policier qui dit « on va pas baisser notre culotte », ce qui est très étonnant dans la bouche d'un représentant des forces de l'ordre. Et en même temps, du point de vue des policiers, à ce moment-là, ils sont en train de contrôler un deux roues qui n'est pas homologué, donc ils font leur travail. Et c'est cette incompréhension et cette défiance, en fait, qu'on voulait illustrer. Et les jeunes qui sont là-bas, il y en a beaucoup qui nous parlent d'interpellations qui sont passées de manière violente. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas aussi le fait d'être contrôlé plusieurs fois dans la journée. Il y en a notamment qui nous dit que parfois il est contrôlé jusqu'à 5 fois. Voilà, c'est ça qui nous intéressait, si vous voulez.
L'an dernier, l'IGPN, la police des polices, a été saisie, c'est votre chiffre, de 1460 affaires, dont 868 pour violences volontaires. Ce qui est intéressant, c'est ce chiffre qui arrive, c'est 41% de plus que l'année précédente. Comment ça s'explique ?
Ça s'explique par plusieurs choses. Ça s'explique en partie aussi à cause des violences liées aux gilets jaunes et toutes les personnes qui ont été blessées dans ces affrontements. Je crois que c'est plus de 2000 personnes, 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées, ce qui explique en fait cette hausse de saisine de l'IGPN.
Alors, vous avez également rencontré des dealers en banlieue parisienne. Vous filmez dans une cave, on les voit vous donner les prix, les salaires aussi. Vous les avez en tête ? Moi, je ne connaissais pas les salaires. Combien on pouvait gagner ?
Oui, alors je suppose que ça dépend des endroits. Là-bas, en fait, effectivement, c'est quelque chose en fait qui est très hiérarchisé, un petit peu comme dans une entreprise. Donc, ça dépend du poste que vous occupez. Il me semble qu'un guetteur gagne 50 euros par jour pour ce qu'on appelle un bosseur. Donc, c'est la personne qui vend de fait dans la rue. Je crois que c'est 100 euros. Et les têtes de réseau, elles, peuvent gagner jusqu'à 5 ou 6 000 euros. Il me semble que c'est ce que la personne nous dit à ce moment-là.
Voilà, et ce qu'on appelle un jour, c'est midi, minuit. Alors justement, en parlant de tête de réseau, vous avez interrogé le chef de la bande, donc celui qui parle, au sujet des violences, des règlements de compte qui font des morts dans les quartiers, dans toute la France. Et sinon approuvé, vous avez expliqué le tour de vis annoncé par Gérald Darmanin via la police. On écoute.
Du point de vue de l'État, c'est pas possible de laisser des règlements de compte s'opérer sans que la police intervienne, en fait.
Mais eux, c'est quand c'est médiatisé. Quand une racaille tue une racaille, ils s'en battent les couilles.
Le nouveau ministre de l'Intérieur, il a déclaré qu'il voulait faire la guerre au trafic. Il va y avoir plus de descentes de police. Il a même accompagné des équipes sur le terrain. Ouais. Il veut multiplier les contrôles.
Ouais. Bah, qui fait ça? Bah, les équipes brûleront encore plus. J'ai que ça à dire. Ce sera encore plus la guerre. Quoi? Après, quand ce sera la guerre civile?
Pourquoi la guerre civile? S'il n'y a plus de trafic?
Il n'y a plus de trafic, c'est simple. Il n'y a plus de drogue dans les quartiers. Bah, c'est simple. Plus de vols, plus de braquages, plus de tout. C'est simple comme bonjour, c'est la guerre.
Crainte partagée par une partie de l'exécutif, vous pensez que l'État laisse faire le trafic, en tout cas le canalise pour, comme on dit, acheter la paix sociale?
Alors, je ne pense pas, mais en tout cas, ce que dit ce jeune homme est intéressant. En fait, ouais. Si vous voulez, il y a plusieurs façons en fait de voir le trafic, et je pense qu'il faut pas non plus gommer la dimension de la misère sociale. Il y a certains quartiers dans lesquels c'est plus difficile de s'en sortir. C'est pas être un militant politique que de dire ça. Et il y a notamment un des jeunes juste avant en fait l'extrait que vous avez passé qui explique qu'il est absolument pas fier en fait de faire ce qu'il fait, mais que pour lui, c'est un moyen d'être indépendant, c'est un moyen aussi de donner des sous à sa mère. Ce que ce jeune l'a dit, moi j'ai pas à me prononcer dessus, mais c'est vrai que ça interpelle, et on peut se poser la question du tout répressif pour mettre fin à ces situations dans les quartiers.
Ouais. En parlant d'interpeller, vous êtes allé à Grenoble, la ville qui a le plus fort taux de criminalité en regard de sa taille. Vous avez suivi les équipes de la BAC, qui est la brigade anti-criminalité. Il y a une séquence assez ahurissante. On est en plein centre-ville. Il y a un parc assez mignon où il y a des mamans avec leurs enfants, mais parc aussi où il y a souvent des dealers, et les agents de la BAC procèdent à un contrôle. Ils arrêtent un jeune devant un scooter, le jeune est en train de fumer un joint, le policier lui demande d'écraser le joint, ce qu'il fait, il lui demande si le scooter est à lui. Le jeune répond non, il est à ma mère. Il lui fait ouvrir le coffre, dans le coffre il y a des talkie-walkie, des sachets de conditionnement habituellement utilisés pour mettre des doses de drogue, et le jeune dit je sais pas ce que ça fait là, et ça passe, et la plaque d'immatriculation est cachée par un masque anti-Covid. Eh bien tout ça ne constitue pas un flagrant délit, et la BAC le laisse partir. Est-ce que ces policiers sont très tolérants, ou est-ce que c'est la loi qui est tolérante?
Bon, je pense pas que les policiers.
Est-ce qu'ils appliquent le code? Est-ce qu'ils appliquent le code de procédure?
Oui, alors là, en l'occurrence, vous savez, désormais, on peut verbaliser pour consommation de stupéfiants. Donc peut-être qu'on peut s'interroger sur le fait de lui demander d'éteindre le joint et de pas lui mettre une amende. En revanche, on a le droit d'avoir des sachets de conditionnement et des talkie-walkie, si vous voulez. À partir du moment où il y a pas de drogue, il n'y a pas de raison en fait d'interpeller l'individu.
D'accord, mais on peut se dire que c'est quand même étrange de se balader avec des sachets et des talkie-walkie dans un scooter qui a sa maman dont on ne sait pas ce que les sachets font là. Voilà ce que je veux dire, c'est tout d'un coup, on se dit tout la câble, il y a des gens qui vont au poste pour moins que ça, voilà ce que je voulais dire.
On peut tout à fait se dire que c'est étrange, mais là en l'occurrence, après moi je ne suis pas là pour juger le travail des officiers de la BAC, ils ont estimé qu'il n'y avait pas de quoi constituer une infraction et que ça ne valait pas le coup de les emmener au poste. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant aussi là-dessus, c'est effectivement de voir le rapport des policiers avec les jeunes et dans certains quartiers. Il y a une autre séquence juste après qui est, on va pas dire amusante, mais qui est saisissante. Ils s'écoutent les uns les autres. On arrive dans un quartier, le fameux quartier du Mistral dont on a beaucoup parlé.
C'est incroyable.
Donc en fait, l'égateur repère les policiers et échange via ces petites radios que vous venez de citer pour dire, là il y a la passade, donc c'est la voiture de l'équipe avec laquelle on est en l'occurrence. Ouais. Le truc que les dealers ne savent pas forcément, c'est qu'en fait les policiers écoutent ces conversations radio-là.
Ouais.
Donc on se retrouve dans un jeu du chat et de la souris très étonnant.
Vous savez quoi, Martin Veil ? Les dealers de Grenoble, ils vont voir votre reportage demain soir. Ils vont voir qu'ils sont écoutés et qu'ils sont scannés sur leur talkie. Merci beaucoup. Votre grand reportage Que fait la police ? C'est demain soir sur TMC à 21h15. Juste après ça, merci d'avoir été avec nous dans Culture Média. Juste après ça, on marque une pause et on va recevoir Tania de Montaigne. Ça va être la partie culture de l'émission. Et entre les deux, Eva Rock, le zapping de la veille, Bertrand Chamerois, l'écran de veille. À tout de suite.